Chers amis, je vous remercie d'être venus pour l'ouverture de ces journées d'études internationales sur le thème humanitaire et médecine. Vous savez que c'est la seconde phase, la première ayant eu lieu les 14 et 15 février dernier. Tout d'abord, je salue la présence et la participation de M. Pierre Maudet, qui prendra la parole dans un instant. J'aimerais rappeler que ces journées sont organisées par l'Institut d'histoire de la médecine et de la santé, dirigé par le professeur Bernardino Fantini, que sa modestie avait relégué au dernier rang, il nous a rejoint au premier rang enfin, et par Genève Humanitaire, centre de recherche historique. La première phase avait concerné la période 1854-1870. La phase qui va nous intéresser pendant ces trois journées concerne 1870-1914 sur le thème « À l'épreuve du feu », c'est-à-dire comment est-ce que la Croix-Rouge naissante se situe par rapport aux grands événements, que ce soit des guerres internationales, des guerres civiles ou des problèmes de santé publique. J'aimerais souligner le fait que le conseil scientifique qui organise ces journées est composé naturellement du professeur Fantini, de Valérie Lacchion, de Dolores Martine Moruno, de François Bugnon, et Françoise Dubesson nous a rejoint et nous aidera aussi beaucoup pour les prochaines étapes, puisqu'en effet, nous espérons bien pouvoir organiser l'an prochain une série de journées d'études consacrées au XXe siècle, notamment la terrible Grande Guerre, et puis la période de l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale. Vous le devinez, il y aura du pain sur la planche. Notre perspective est donc historienne et elle a choisi comme fil rouge le rôle des médecins, de la médecine, du corps médical dans l'installation et le développement de la Croix-Rouge internationale et nationale. J'aimerais encore souligner que nous avons une équipe technique, Myriam Spery, Stéphane Aubert, Michel Morimoigné, et que nous avons une équipe de bénévoles qui nous rendent grand service pour les pauses et pour les repas. Il s'agit de Bernard et Monique Dunant, d'Ariane Vogel, Claire Dunant, Maria Franzoni, qui donc sont à votre disposition. C'est un étage plus haut. Si vous avez envie d'une tasse de café, etc., n'hésitez pas. Et donc, on vous annoncera la pause qui aura lieu vers 10h, 10h15 et cet après-midi de même. À midi, nous aurons un repas ici sur place qui vous est offert, donc vers midi 15, midi 30, et nous reprendrons nos travaux à 14h. Demain, même programme depuis 9h, et samedi, nous nous déplacerons tous au Palais de l'Athénée, puisque c'est là qu'a eu lieu, exactement il y a 150 ans, la première conférence constitutive de la Croix-Rouge. J'aimerais aussi signaler que ce soir, à 18h30, nous aurons une conférence extrêmement intéressante de M. Bruce Echaria-Chauvin, qui est médecin conseil au CICR et qui s'occupe de cette grande campagne sur les soins de santé en danger. Ce sera donc une conférence au Centre médical universitaire. À la table d'accueil, à l'entrée, vous remarquez un certain nombre de publications. Nous ne pouvons que vous encourager à les regarder et à les acheter. Elles sont passionnantes et très bon marché. Et vous pouvez aussi demander des renseignements et des conseils. Je remercie Tony Gouisberg de s'occuper de cette lourde tâche. Il me reste maintenant à donner la parole à notre président de séance, M. Jean-Luc Blondel, qui est le directeur des archives du CICR. C'est pour nous un immense privilège d'avoir maintenant un homme de lettres, un homme de culture. Je crois que M. Blondel a fait une thèse sur les relations entre l'humanitaire et la théologie. Le militaire et la théologie. Ah, le militaire et la théologie. Donc c'est juste en amont de l'humanitaire. Mais on reste un petit peu dans le domaine. Et je ne peux que vous recommander de contacter les archives du CICR. Il y a des trésors magnifiques et on y est très bien reçus. Je donne maintenant la parole à M. Blondel.
Oui, merci beaucoup, M. Déjà, mesdames et messieurs, bonjour. Le titre de directeur me plaît beaucoup. Je le garderai pour cette journée. Mon ancien directeur parlera un peu plus tard ce matin, dont elle fera partie. Nous commencerons la journée à Genève, comme il se doit, avec Saint, ancien maire de Genève. Il y a eu plusieurs colloques écrits sur Genève Méditerre. Pas seulement, je suis vaudois, donc Genève c'est loin. C'est la ville au bout du lac, mais en même temps c'est à mi-chemin, le fleuve continue, il s'étend, il se répand dans le monde entier, comme la nature méditerranéenne qui a pu l'être ici. Et bien, si j'étais à Bâle, j'aurais aussi des mots amicaux pour le Rhin, et cette ouverture de la Suisse en général vers le monde, par le pied de la nature méditerranéenne notamment. Monsieur le conseiller d'État, je vous invite tout de suite à parler. Vous êtes un peu de la famille, puisque vous occupez de sécurité. Vous êtes aussi samaritain. Vous avez apporté des secours dans le cadre militaire. Donc, vous êtes proche de nous déjà.
Et j'essaye de gérer parfois quelques catastrophes, effectivement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de m'accueillir ce matin pour quelques mots de bienvenue. J'avais particulièrement à cœur de répondre à l'invitation de Roger Durand ce matin pour deux raisons. La première, c'est que pour le Conseil d'État, il est extrêmement important à chaque occasion qui se présente, et Dieu sait si vous rendez ces occasions possibles, je profite au passage de vous remercier, vous ainsi que les deux entités citées tout à l'heure, Genève Humanitaire d'autre part et l'Institut d'Histoire de Médecine de la Santé de la Faculté de Médecine de l'Uni de Genève. Dieu sait s'il est important pour le Conseil d'État de souligner, chaque fois que l'occasion nous en est donnée, que Genève est une cité international qui doit beaucoup à la part humanitaire de ce volet international et que cette tradition humanitaire, ben, par définition, si l'on parle de tradition, elle s'inscrit dans l'histoire. Et que chaque occasion qui nous est donnée de souligner d'où l'on vient quant à cette tradition humanitaire, bien, il faut pouvoir le faire et le dire. Donc merci d'abord pour l'organisation de cet événement auquel je ne pourrais malheureusement pas rester très longtemps, et c'est chaque fois un crève-cœur quand on voit le programme que devoir se contenter des quelques mots d'introduction. Merci en particulier parce que pour le Conseil d'État, dans des circonstances actuelles indépendantes de l'activité humanitaire qui nous ont occupés, notamment durant le mois de septembre, la place de la médecine est un sujet d'interrogation régulier. En septembre, c'était la place de la médecine dans le monde carcéral. Ça va continuer sans doute pour quelques semaines ou quelques mois, mais c'est un sujet d'interrogation profond parce que le rôle du médecin et sa place dans des activités aussi essentielles que l'action humanitaire ou la dimension pénitentiaire d'une société, le rôle du médecin amène souvent à s'interroger plus en profondeur sur l'ensemble du fonctionnement du domaine considéré. Les médecins agissent souvent comme révélateurs parce qu'ils ont à la base une vocation assez humaniste, assez altruiste, parce qu'ils ont aussi, de par leur fonction et la nature de leur activité, une proximité très forte avec les êtres humains, qu'ils révèlent ainsi profondément la nature d'une société ou d'une situation dans un contexte donné, et qu'il y a beaucoup à apprendre. Dans le cadre de la Genève humanitaire, dans le cadre de la Croix-Rouge en particulier, dont on fête cette année et l'année prochaine à de multiples occasions les 150 ans de, là il s'agira des 150 ans en particulier des actes créateurs, l'année prochaine on parlera des 150 ans de la signature formelle des traités, on voit que les différents ingrédients qui ont présidé à la constitution de la Croix-Rouge, du Comité national de la Croix-Rouge, proviennent d'horizons divers. On a les juristes avec M. Moynier, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. On a évidemment dit non l'aventurier, l'intrépide et en même temps l'homme de génie qui révèle la situation comme problématique. On a le général Dufour, qui, par son éclectisme et sa diversité dans les activités, montre aussi à quel point Genève était capable, à l'époque en tout cas, de sécréter des personnes à de multiples talents. Et puis on a les médecins, dont on a relativement peu parlé, évidemment Appia et Monoir, mais dont il s'agit précisément de parler, parce qu'en réalité, c'est eux, si mes connaissances sont exactes, qui ont passablement préparé le terrain, qui ont révélé que le rôle de la médecine dans la guerre devait apparaître comme plus important, comme pris pour lui-même, que la position du médecin en première ligne, au propre comme au figuré, apparaît comme hautement problématique à l'époque, que la notion de neutralité de l'intervention du médecin qui va bien avec l'émergence du concept de neutralité à l'époque dont va être évidemment nanti la Croix-Rouge est un élément essentiel, et que tout ça rend possible une utopie qui est la Croix-Rouge, mais une utopie dont on sent les prémices concrètes précisément à ce moment-là. Donc je crois qu'au nom du gouvernement, dans la perspective historique qu'on essaye de retracer durant ces années de commémoration, le rôle et la place du médecin dans la constitution de la Croix-Rouge est évidemment un des sujets principaux qu'il s'agissait d'aborder. Donc merci, et c'est le premier message que je voulais vous amener ce matin, merci de rendre possible cette discussion. Au-delà de ça, et c'est peut-être le deuxième message que je voulais porter aujourd'hui, je sais qu'il est aussi au cœur de vos discussions et des conférences qui auront lieu, c'est de s'interroger, lorsque l'on fait un retour sur l'histoire, s'interroger en écho sur la situation qu'on vit actuellement. Et peut-être que la place de la médecine, respectivement des médecins, dans l'action humanitaire moderne, est là aussi un des enjeux les plus forts de l'action du CICR aujourd'hui. J'écoutais la semaine passée une intéressante conférence du directeur général du CICR, M. Dacor, qui parlait de la réalité de l'activité des quelques 13 000 employés de la Croix-Rouge sur le terrain, notamment de la difficulté aujourd'hui dans une certaine asymétrie entre interlocuteurs, d'entrer en discussion ici avec des terroristes, là avec des groupes difficilement identifiables et identifiés, la difficulté aujourd'hui de faire valoir toujours, voire plus que jamais, l'emblème de la Croix-Rouge comme non pas une amulette protectrice, mais quand même une sorte de signe qui place sous les auspices, passé sous les auspices de la neutralité, permet à chacune et à chacun d'agir au bénéfice des plus vulnérables, et qui lui-même accréditait l'idée qu'aujourd'hui, pour les médecins, il y avait une sorte de retour en arrière, c'était de nouveau aussi difficile, alors peut-être pas autant qu'à l'époque de Solferino, mais sans doute plus qu'à certaines périodes du XXe siècle, de bénéficier de cette neutralité, de cette approche bienveillante, des parties belligérantes qui devraient, et on espérait que c'était un acquis du XXe siècle, considérer le médecin comme précisément non pas une partie au conflit, mais un acteur bienveillant, neutre, considéré comme naturellement porté vers le secours à l'autre et pas partie prenante du conflit. Il semblerait que sur différents théâtres de conflit, on en revienne, et on en revienne beaucoup. Et évidemment, de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir l'écho historique qui peut être donné, parce que nous sommes, vous le savez, condamnés à revivre l'histoire si on ne la connaît pas d'abord, qu'on n'évite pas ensuite, en identifiant quels ont été les écueils qu'on a rencontrés, précisément de les reproduire, et si l'on ne s'interroge pas en profondeur sur l'idée à laquelle je crois fondamentalement d'un certain progrès, qu'il y a des jalons qui sont placés et que l'histoire avance, que nous arrivons précisément à dépasser les situations de barbarie qu'on a pu connaître par le passé. Pour toutes ces raisons, mesdames, messieurs, je vous souhaite un excellent séminaire, de belles et intéressantes conférences, mais surtout d'en sortir, et je me réjouis de prendre connaissance des actes, ou au minimum de la synthèse qui en sera faite, d'en sortir avec la conviction, j'espère, que précisément l'histoire avance, qu'on ne refait pas en boucle les erreurs, notamment dans le domaine de la considération de la médecine en situation de guerre qu'on a pu connaître par le passé, et puis que vous puissiez, comme c'est la vocation de notre cité, de notre canton, contribuer utilement à l'avancée des idées humanitaires dans notre société aujourd'hui. Merci de votre attention, à chacune et à chacun un excellent séminaire, et je vous rends la parole, Monsieur le Président.
Parler de Louis Appia, 1818-1898, c'est une gageure, c'est un défi pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un défi scientifique, puisque les archives personnelles d'Appia ont disparu, tant ses nombreux manuscrits que la correspondance qu'il aurait reçue. Donc là, un vide très ennuyeux. Deuxièmement, c'est un défi, on pourrait dire, biographique, puisque la seule biographie d'Appia remonte à 1959 par Roger Bopp, qui était un bon historien, mais on pourrait dire extrêmement enthousiaste. C'est aussi un défi quantitatif, parce que l'homme a vécu pendant 80 années, et je peux vous dire qu'il était non seulement actif, mais souvent hyper actif. Donc encore, suivre tout ce qu'il a fait, c'est impossible, surtout en 26 minutes. Et puis, c'est un défi qualitatif parce que Louis Appia n'est pas seulement un médecin, il est un philanthrope, il est un homme de foi, il est un homme qui a une vision politique de la santé publique, donc des aspects extrêmement variés. Pour résumer cette introduction, je dirais que j'essaierai de parler un peu de son milieu, de ses origines, de sa formation, puis sa participation à la fondation de la Croix-Rouge, et enfin les dimensions de franc-tireur que j'ai découvertes avec beaucoup d'intérêt. Pour sa vie et sa formation, nous devons commencer par la famille, par les parents. Les Appia sont issus des vallées vaudoises du Piémont, vous savez, ces communautés réformées, mais qui remontent au XIIIe siècle et qui ont été persécutées pendant des centaines et des centaines d'années. Et je rappelle que ces Vaudois du Piémont n'auront les droits civils qu'en 1847. Donc le père de Louis Appia, Paul, a vécu toute sa vie comme un Untermensch, donc un homme d'une seconde zone, d'une troisième catégorie, et que Louis Appia, les 30 premières années de sa vie, a connu cette condition aussi. C'est assez intéressant par rapport à la perception de la persécution, de la souffrance et de l'état de dépendance. Paul Appia, vous ne serez pas surpris, est pasteur. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il est vite appelé à Hanau, dans la Hesse, et c'est d'ailleurs là que Louis Appia naîtra en 1818. Puis Paul est appelé comme pasteur à Francfort, c'est une nomination flatteuse. Il y restera donc dans la paroisse francophone de Francfort, et il y restera jusqu'à sa mort en 1849. Quand on voit les domaines, c'est-à-dire le presbytère du pasteur à Hanau ou à Francfort, on voit que c'était des personnages extrêmement considérables dans leur temps. Je ne peux pas passer sous silence le fait que la sœur Pauline de Louis épouse un Jean Vanette, pasteur, que la sœur Cécile épouse Gabriel de Beaumont, peintre, à ses côtés, que sa sœur Louise sera diaconesse dans un poissonnariat, et que son frère Georges, vous le devinez, deviendra pasteur. Donc on a là une densité religieuse extrêmement intense, et nous nous rappelons que nous parlons de la mouvance du réveil, c'est-à-dire on pourrait dire du fer de lance de la réforme des églises protestantes en Europe continentale et en Grande-Bretagne. La mère, Caroline de Valais, est d'Yverdon et elle compte deux chirurgiens dans sa famille. Si nous parlons de la formation de Louis Appia, il fait son collège à Hanau, donc il a une formation germanique, germanophone. Et c'est pour nous, ce sera extrêmement intéressant pour la suite. Il vient à Genève en 1836 pour suivre l'Académie de Belles-Lettres. À l'époque, c'était une sorte de propédeutique pour accéder à l'université à partir du collège qu'on terminait beaucoup plus tôt. Puis, il mène ses études à Heidelberg. Il devient docteur en médecine en 1843. Soulignons qu'il participe à cette immense effervescence du romantisme allemand, et qu'il va vivre les heures exaltantes de 1848, l'espoir d'une unité allemande, d'un système démocratique, etc. Et tout ceci, naturellement, sera écrasé, en tout cas en Allemagne. Nous avons de cette période un portrait peint par Adolf Potter, qui nous montre un jeune, il a 25-30 ans, homme très bien habillé, très chic, qui fait plus penser à un dandy anglais qu'à un fils de pasteur réfugié. Et ça nous montre qu'il y a déjà un standing social élevé chez ces exilés des vallées vaudoises, très bien installés en Allemagne. Une petite comparaison s'impose. Si je pense aux autres fondateurs de la Croix-Rouge, je crois que nous n'avons pas de portrait à l'huile de cette période ou de l'âge qui leur correspondrait. Pour Moigné, on a soit une aquarelle ou un dessin. Pour Dufour, on a des dessins de sa fille, Annette. Et pour mon loin, rien du tout. Donc, c'est assez, et pour du nord, rien du tout non plus. Donc, j'ai l'impression à confirmer que Appia et sa famille appartiennent à une partie élevée de la bourgeoisie européenne. On peut aussi souligner que le père Paul est un familier de Germaine de Staël, de François Guizot. Donc on est assez haut dans les milieux culturels et religieux européens. Louis Appia arrive à Genève en 1849, l'année de la mort de son père. Et toute la famille s'installe, il est médecin de campagne, à Jussy, mais on pourrait dire que Jussy n'est pas la plus pauvre des campagnes. Il s'occupe aussi de deux enfants, Lasserre, qui causait beaucoup de soucis à ses parents, et il va épouser leur sœur, qui est Anne Lasserre, qui a 19 ans. Lui, on a 35. Donc, il y a aussi une différence d'âge étonnante. Cette demoiselle Lasserre est la fille d'une Bernette Lombard, qui elle-même est la fille d'un certain Jean Lombard, fondateur de la banque du même nom, n'est-ce pas? Donc on a là aussi ce qu'on appelle un beau mariage. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas tant que sa femme vit, Louis Appia est à l'abri du besoin. Et c'est assez intéressant de voir que le seul qui doit travailler pour vivre dans les salles du CICR, finalement, c'est Théodore Beaunoir. Henri Dunant, il aurait pu travailler pour vivre, mais il s'est lancé dans d'autres opérations qui l'ont mené à sa faillite de 1867. Hormis ses fonctions de médecin, Appia réussit très bien dans la société genevoise. Il devient président de la société médicale en 61. Il est membre actif de l'ASGU. Il est très lié au cercle genevois, comme le prouve le journal intime d'Henri Frédéric Amiel, qui le cite depuis 1851 toutes les années. Il se voit. Donc il y a là une intégration magnifique. J'aimerais juste souligner qu'il se marie en 53, qu'en 56 arrive Paul, en 58 Hélène, en 60 Marie et en 62 Adolphe. Je ne sais pas pourquoi en 64 il n'y a plus personne, mais c'est assez régulier, n'est-ce pas? Et j'aimerais juste signaler que Marie, elle est missionnaire, et Paul II, donc le petit-fils de Paul I, vous devinez ce qu'il est, pasteur. Donc on continue la tradition. Mais notre ami Louis Appia, lui, est médecin, mais il est en contact permanent avec Georges, son frère. Nous avons une publication pour cette période, en 1856 probablement, intitulée « Le pardon de la dernière heure ». Et c'est le récit du médecin qui accompagne un jeune noble anglais qui est venu échouer à Genève, complètement tuberculeux, pourri par l'alcool, la drogue, etc., rejeté par sa famille. Il est un fils de Lord Shaftesbury, donc de la grande noblesse britannique. Et en fait, Louis Appia décrit un constat qu'au niveau médical, il n'y a aucun espoir, et que deux, il va faire une cure d'âme. Et il décrit en une cinquantaine de pages le chemin spirituel de ce jeune noble. Et cette publication, pour nous, est révélatrice parce qu'elle montre les liens étroits pour Appia entre le spirituel et le médical. Dans cette période genevoise aussi, naturellement qu'il est très lié à la société évangélique, puisqu'il fait partie du réveil, et ce n'est pas par hasard que son frère, depuis Turin, l'appelle au secours au moment où la guerre éclate entre le Piémont, la France d'un côté, l'Autriche de l'autre, au printemps 1859. Alors, initiative intéressante, Louis Appia lance, depuis Genève, un appel aux dons, et il recueille 2 tonnes de médicaments, de charpies, de biens de premier secours qui vont être envoyés sur le théâtre de la guerre d'Italie. Donc, en résumé, cette période genevoise, c'est une période d'installation, c'est une période d'intégration, c'est une période brillante. Et il est amusant de souligner qu'en 1860, il obtient la naturalisation, la nationalité genevoise. Et c'est donc un tout nouveau Genevois qui va participer à la fondation de la Croix-Rouge un petit peu plus tard. Hein. On oublie ces éléments-là. Je pense que quand il parlait, il devait avoir un léger accent germanique. Comme d'ailleurs Napoléon III. Je pense, mais je ne peux pas le certifier. Toujours est-il que nous avons là une trajectoire brillante, mais pas exceptionnelle, et s'il n'avait pas participé à la fondation de la Croix-Rouge, nous n'en parlerions pas aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que comme médecin, il a tout de suite un grand, un grand intérêt pour la chirurgie de guerre. Nous savons que à Paris et à Francfort, lors des révolutions qui sont sanglantes, il intervient. C'est la tradition familiale qu'il dit. Je n'ai pas pu contrôler, mais on le répète depuis tout le temps. De même, le 14 janvier 1858 a lieu à Paris le fameux attentat d'Orsini, un patriote italien qui a tenté d'assassiner ou en tout cas d'impressionner Napoléon III au moyen d'une bombe qui a sauté en plein public. Et à la nouvelle de ce désastre, Appia saute, je pense, dans le train, il doit juste exister à ce moment-là, et il va soigner aussi les blessés. Donc il y a manifestement un intérêt de chirurgie de guerre, et ce n'est pas surprenant si au début 59, il publie « Le chirurgien à l'ambulance », qui est le récit de toutes ses expériences dans des situations de guerre pour des soins, des diagnostics et des soins pour les blessés par balle ou par l'artillerie. Cet ouvrage est très technique. J'aimerais qu'une fois un médecin l'étudie pour nous dire en quoi il est nouveau ou en quoi il est répétitif. Mais en tout cas, il nous montre, il nous prouve que Louis Appia est véritablement le spécialiste technique de la future Croix-Rouge. Lorsque la bataille de Solferino est connue à Genève, c'est le 29 juin, que lors d'une assemblée générale qui tombe par hasard au même moment de la société évangélique, le pasteur maire d'Aubigny lance un grand appel pour qu'on envoie des secours, et Appia part. Mais il part seul, alors qu'il y a une mission de la société évangélique qui va partir en parallèle. Et nous le trouvons le 3 juillet à Turin, puis il ira à Milan, Brescia, Senzano. Et là, on pourrait dire qu'il visite les hôpitaux qui reçoivent les blessés qui ont survécu, et il est en contact avec les chirurgiens français pour les diagnostics et les opérations. Il participe à des opérations et il se livre à un certain nombre de réflexions. Il écrit, alors je n'ai pas réussi à savoir si c'est un procédé littéraire ou si c'est effectif, il écrit des lettres à un collègue sur les blessés, etc. etc. C'est Théodore Monnoir, mais on n'a pas trouvé les lettres. J'ai peut-être l'impression que c'est un procédé littéraire pour raconter son expérience et les enseignements qu'il a tirés de cette campagne. Il termine ainsi: « Si nous devions nous trouver plus tard ensemble sur d'autres champs de bataille, la guerre d'Italie sera présente à notre mémoire pour nous guider dans notre conduite comme médecins. Nous ne nous tromperons pas sur la portée de nos ressources. Nous n'oublierons pas que les succès dépendent bien plus souvent des lois mêmes de la nature et d'heureuses circonstances que de notre traitement. Nous dirons, avec un grand chirurgien du XVIe siècle, qui a jeté le premier un jour réformateur sur le traitement des plaies par arme à feu, je le pensais, je le guéris. » Et cette maxime d'Ambroise Paré est, comme par hasard, aussi la maxime de la thèse de doctorat d'un certain Théodore Monnoir. Et nous voyons de nouveau les liens très forts que Appia établit entre les soins médicaux et l'intervention divine pour la guérison des blessés. En 62, nous apprenons qu'il est le lauréat premier ex aequo à un concours lancé par l'Académie Pontaniane de Naples sur le transport des blessés. Et il est en contact à ce moment-là avec un certain Fernandino Palasciano, dont vous avez entendu parler, grâce au professeur Fantini. Et c'est une zone d'ombre dans la vie d'Appia, parce que Appia manifestement connaît les travaux de Palasciano, qui était l'apôtre de la neutralisation des blessés. Et jamais APIA ni le CICR n'intégreront Palaciano dans leur démarche ultérieure. Là, il y a un point d'interrogation. D'ailleurs, Palaciano était très 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 fâché et il a refusé une reconnaissance ultérieure. Le souvenir de Solferino est donc la suite logique de cette campagne d'Italie, et nous savons que Capia a participé comme expert à la rédaction du nom. L'a toujours dit, il n'était ni spécialiste militaire pour décrire les scènes de bataille du premier tiers, ni spécialiste de médecine militaire pour décrire l'intervention du chirurgien de guerre à la Chiesa Maggiore, etc. Il s'est entouré d'experts, et assurément Capia en a été l'un. Une rumeur a longtemps circulé à Genève que Dunant n'était pas l'auteur du souvenir de Solferino. Certains même laissaient entendre qu'il avait acheté un manuscrit ou qu'il s'était payé ce qu'on appelle un nègre, n'est-ce pas? Ces rumeurs ont traîné très 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 longtemps. Ça faisait partie d'une campagne de désinformation. Mais Appia, là, était assez fair-play. Il n'a pas alimenté ces rumeurs. Alors qu'il jetait un regard extrêmement jaloux, je crois qu'il faut le dire, sur les succès, notamment les succès mondains et les succès, on pourrait dire, de prestige d'Henri Dunant, qui était couvert de décorations et de médailles, de même que Gustave Mounier d'ailleurs. Lors de la fondation du CICR, Appia joue un rôle déterminant. Donc, le souvenir de Solferino est sorti en novembre 62, le CICR est fondé le 9 février 63 grâce à Moynier, qui a beaucoup de peine à convaincre les membres de la société d'utilité publique qui refuse à deux reprises de s'occuper du projet Dunant de créer des sociétés de secouristes volontaires dans les armées en campagne. Et lors de la fameuse séance du 9 février, le procès-verbal montre manifestement que Appia est le seul qui soutient inconditionnellement le projet de Dunant Moynier. Donc, il ne faut pas s'étonner si nous émettons l'hypothèse que le premier comité international n'a été composé que de 3 personnes. Les PV sont formels là-dessus. On parle toujours du comité des 5, mais pendant 8 jours, il y a eu le comité des 3. Et quels sont les trois qui se sont les premiers jetés à l'eau? C'est certainement Dunant, c'est certainement Moynier, et c'est, selon toute vraisemblance, Appia. Nous savons que le général Dufour était carrément dubitatif, pour ne pas dire hostile au projet, sur la faisabilité du projet, et Monnoir a certainement été récupéré par Appia après cette séance. Le comité international tient une dizaine de séances, six séances, je crois, jusqu'à la grande conférence d'octobre 1863, celle dont nous fêtons ces jours le 150e anniversaire. Et le rôle d'Appia est tout à fait mineur dans cette période, d'après les procès-verbaux, c'est la seule source que nous ayons. En revanche, lors de la conférence, qui va durer 4 longues journées, qui se tient donc au Palais de l'Athénée, où le comité genevois a réussi à attirer des représentants de 16 nations, dont beaucoup de représentants officiels, ce qui est une performance absolument extraordinaire, la bataille n'est pas gagnée d'emblée. L'opposition, notamment des médecins français, qui est d'un intendant, est extrêmement dangereuse pour le succès de la conférence, et nous savons que Monnoir est intervenu, a réussi à clouer le bec, il faut le dire ainsi, à Boudier, et que ensuite les partisans, notamment les Allemands, notamment Landa pour l'Espagne, ont pu reprendre, menée par Bastigne, l'offensive pour obtenir des résolutions et des vœux. Appia prend plusieurs fois la parole, parfois de façon très bizarre. Par exemple, il se prononce pour la suppression du seul article dans lequel on nommait le comité international dans le futur dispositif. C'était modestement que le comité international rassemblait les informations des différents comités informés et qu'il redistribuait l'information. Donc simplement un rôle de relais, et même ce rôle-là, Appia propose de le supprimer. Je ne comprends pas pourquoi, mais le texte est absolument clair, c'est bizarre. En revanche, il fait une intervention déterminante. Au moment où le général Dufour dit que la conférence ne peut s'occuper d'adopter un uniforme et de l'imposer à 12 ou 15 pays différents qui adhéreront aux résolutions de la conférence. Donc, curieusement, le général Dufour s'oppose à un uniforme distinctif pour les secoureurs volontaires et pour les militaires, les chirurgiens de guerre. Mais il ne propose rien d'autre. Il dit un non. Alors, heureusement, Appia reprend le relais et on lit « Monsieur le docteur Appia insiste sur l'importance d'un signe distinctif international » et demande que l'on ajoute dans le premier paragraphe « La conférence propose un brassard blanc au bras gauche. » Suite une discussion, et il n'y a pas de croix rouge encore, hein. Et puis vous le savez, c'est une phrase célèbre que mon ami François Pignon a souvent citée lorsqu'il a fait ses études sur l'emblème. Enfin, après quelques discussions, la proposition de M. Appia est adoptée, modifiée en ce sens que le brassard blanc portera une croix rouge. Et nous n'avons toujours pas réussi à établir qui avait proposé cette croix rouge. Mais on sait qu'Appia a joué là un rôle important. Je vais passer assez vite sur le reste de la contribution d'Appia au lancement du mouvement international. Et vous savez qu'il va participer à la fondation de la Croix-Rouge genevoise et il s'occupe des séances de charpie de ces dames. Ça, on n'en parle pas assez, mais en tant que médecin avec Monnoy, c'était son dicaster. Vous savez qu'en mars et avril 64, il va partir comme premier délégué avec Van de Velde dans la guerre des duchés, et il va produire à la fin de sa mission, il avait pour mission d'observer la faisabilité des propositions de créer ces sociétés de secours volontaires. Et c'est un rapport de 115 pages qu'il publie avec deux autres rapports en juin 64, donc il va extrêmement vite. Ce qui est très étonnant, c'est que dans les conclusions qu'il met en fin de volume, où il analyse et il met en comparaison les résolutions et les vœux d'octobre avec les réactions des chirurgiens et des militaires allemands et autrichiens qu'il a rencontrés et auprès desquels il était très bien reçu, puisqu'il a même été reçu et il était invité à dîner à la table du fameux général Wrangel, donc le tout grand chef de guerre des Prussiens. Ce rapport est bizarre et manifestement il n'a pas fait plaisir, nous pourrons en reparler. Il participe naturellement à la vie du CICR, il est secrétaire pendant un certain temps, il va à toutes les conférences internationales, Paris, Berlin, Genève, Karlsruhe, Rome, et à Rome il est même invité à la table d'honneur de la reine d'Italie lors du banquet final. Il faut le rappeler, l'homme est très sensible aux honneurs mondains, de même que Dunant, de même que Moignet, et aussi, toute proportion gardée, de même que le général Dufour. Nos grands bourgeois genevois aiment bien rencontrer des têtes couronnées et la noblesse européenne. Et Appia, à ce moment-là, je crois que ça serait tout à fait dans cette ligne. Dans la vie du CICR, il est le médecin expert, ce n'est pas une surprise, puisque Monnoir meurt en 69, et il se spécialise notamment dans les concours. Alors, il y a un grand concours que le CICR lance en 81 sur l'art d'improviser des moyens de secours. Comment soigner quelqu'un avec un bout de bois, avec un linge, avec une serviette, etc. Et puis, il y a un autre concours que j'ai découvert grâce à Valérie Lathiot, qui va vous parler tout à l'heure, qui a fait une thèse remarquable sur le rétablissement du dimanche comme un jour chômé. Et là, j'ai vu que Appia fait partie du jury d'un concours que j'appellerais hygiénique, qui a pour but de susciter des ouvrages démontrant la nécessité du repos du dimanche pour le corps humain. Et il y a 53 mémoires qui sont envoyées au jury, il va mettre 2-3 ans pour tous les lire, et Appia est cité comme celui qui fait les rapports, les analyses de ces rapports. Et de nouveau, c'est intéressant, on a un lien entre le spirituel et le physique. Et puis, il se marquera aussi par la publication du fameux livre « La guerre et la charité » qu'il signe avec Moignet, qui sera un ouvrage de référence couronné, etc. etc. Franc-tireur. Alors, pour nous, la première preuve, c'est ce fameux rapport de juin je pense, juin-juillet, on peut discuter, 1864. Donc, c'est un rapport extrêmement important, et c'est juste avant le congrès diplomatique d'août 64. Or, Appia met beaucoup plus en évidence les objections des militaires que le soutien des militaires allemands, prussiens donc, et autrichiens. Par exemple, au sujet de la neutralité et des blessés et du corps sanitaire, il dit « Sur ce point, je regrette de devoir encore vous dire, messieurs, que la plupart des personnes, soit de l'ordre médical, soit de l'ordre militaire que j'ai consulté, se sont prononcées pour la négative en principe, pour la négative en principe, tout en reconnaissant que, dans la pratique, une large part devait être faite au devoir d'humanité. » Donc c'est vraiment un compte rendu tout à fait négatif, et j'ai trouvé une lettre d'Appia à Moignier. Moignier prend les eaux à Schinsnach, comme ça, en juillet, et on a quatre pages d'Appia où il se défend. Il a dû recevoir une lettre incendiaire de Moignier, et il dit « Mon cher général, vous êtes notre autorité légitime. Je m'y soumets. Ce n'est pas à un chirurgien venant de la campagne du Schleswig à faire de l'insubordination. Vous voyez que je suis conséquent, et je sais avaler une pilule que je conseille aussi pour les autres, etc. etc. » Et il lui dit « Je me soumets », il y a quatre pages pour dire qu'il ne se soumet pas. Nous avons publié cette lettre dans le prochain cahier de Genève humanitaire, et elle vaut son pesant d'or. Elle était accessible, elle se trouve au CICR chez vous, et elle est fantastique parce qu'elle montre qu'il y a une dynamique dans ce comité international, dans les actes que vous achèterez, j'espère, tout bientôt. J'ai publié une lettre de Monnoir à Moignier, qui est tout aussi contestataire. Donc le comité fondateur, je peux vous le dire, était un comité vivant. Et les PV ne reflètent que timidement les enjeux. Pour même dire qu'on ne met que les éléments de consensus, ce sont des fortes personnalités qui s'opposent. Et c'est de ma découverte d'Appia, c'est un élément qui ressort et qui n'était pas souligné. Appia, il a une tronche. Et je peux vous dire que ça ne devait pas être facile de travailler avec lui. On le savait pour du nom. On l'a aussi établi pour Moignier. Et je pense que le brave général Dufour sort encore grandi de cette situation. Ça devait être l'arbitre, le Nestor de tous ces guerriers, on pourrait dire, de l'humanitaire. Une autre situation de conflit, c'est la guerre entre, d'un côté, l'Italie et la Prusse, de l'autre côté l'Autriche. Et l'Italie donc part en guerre contre l'Autriche en 1866, et elle perd, je crois, à peu près toutes ses batailles. J'espère qu'il n'y a pas trop d'Italiens ici. Ah oui, mais elle en gagne une, la bataille de la Bezzecca, qui est remportée par Garibaldi, qui y envoie ses troupes, et il y a beaucoup de blessés. Et nous apprenons que Appia, avec son frère Georges et deux autres personnes, ont constitué une ambulance qui sont portées volontaires, avec probablement la bénédiction du comité de Milan, dirigé par le docteur Castiglioni, que nous allons découvrir grâce à Maria Baccolo, ou que nous avons découvert, hein, et qui était le fondateur de la Croix-Rouge italienne. Mais c'est pas clair. En tout cas, ils partent là-bas avec une petite équipe, ils font merveille, parce qu'ils sont à peu près les seuls, et ils sont vraiment en ligne du combat, donc ils font de la chirurgie de guerre, mais ils n'ont aucune mission, semble-t-il, du comité international. Et ils ne se gênent pas pour publier le rapport de son expédition, dans lequel aussi il évoque que, d'un côté, on soigne les soldats italiens blessés, il n'y a pas d'Autrichiens, mais on ne peut pas inventer des soldats blessés ennemis, hein, selon les combats. Mais qu'en plus, on distribue un petit bouquin que Georges a fait imprimer juste avant, qui est un manuel de théologie et de conversion. C'est-à-dire que c'est un petit livre dans lequel il y a des conseils pratiques pour l'hygiène du corps, mais il y a aussi des prières pour le matin et des prières pour l'après-midi, et il y a même des très belles exhortations. Je cite juste l'une d'entre elles. « je cite, « Dites avec David, vous devinez de quel David il s'agit, le Seigneur est ma lumière et mon salut, et je ne craindrai rien, etc. » Donc il y a une confusion complète entre l'humanitaire et le missionnaire, si l'on peut dire, ce qui était exactement ce que Gustave Moynier ne voulait pas. Et on peut imaginer qu'il y a eu quelques mots intéressants. Je terminerai avec la guerre franco-allemande, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de minutes. Pour vous dire que Pierre décide, il part. En juillet 1870, il part. Le comité, je cite, décide de ne donner pour le moment aucune délégation officielle à M. Appia afin d'éviter tout ce qui pourrait mettre en doute la neutralité complète dont doit s'inspirer le comité international. Et donc Appia part tout seul comme un grand jusqu'en décembre, il va soigner des blessés du côté allemand. Et alors, malheureusement pour le CICR, ça ne le gêne pas du tout d'écrire. Alors il écrit au premier des rapports au CICR, on ne réagit pas, mais ensuite il écrit à la presse. Et apparemment, ce ne sont pas que des lettres positives sur l'intervention de la Croix-Rouge. Je n'ai pas encore réussi à trouver ces lettres, mais on voit par exemple que le comité approuve une rectification que M. Moynier fera relativement à un article du journal La Croix concernant la position de M. Appia. Plus tard, le comité regrette la lettre de M. Appia au journal de Genève du 19 septembre. Le comité aurait préféré se voir adresser à lui-même des rapports de ce genre. Et je continue, il a paru dans la Suisse radicale un article concernant la lettre de M. Appia, paru dans le journal de Genève, article qui blâme en termes très énergiques la conduite du comité international. Il a décidé que cette lettre du docteur Appia au journal de Genève sera désavouée et que les faits seront rectifiés. Je crois qu'on avait exclu du nom pour moins grave. Et parce que manifestement, ils sont en complet désaccord. J'ose pas imaginer la séance de décembre quand Appia revient et le comité enregistre simplement le docteur Appia revient de ses pérégrinations en Allemagne. Un point pris à l'autre. Donc on a là vraiment un homme qui s'est complètement, distancé de l'institution dont il est le médecin de référence. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas d'autre médecin. En deux mots, nous pouvons dire que Louis Appia est une très forte personnalité au point de vue professionnel, au point de vue philanthropique, au point de vue spirituel et au point de vue humanitaire. Et il a certainement contribué à l'assise médicale de cette grande opération qui était la Croix-Rouge, qui au début était médicale. Il me semble que lorsqu'il est décédé, on ne l'a pas remplacé par une personnalité aussi remuante, le docteur Ferrière est arrivé en lice, mais la voie médicale, depuis la disparition d'Appia, a été beaucoup moins présente au sein du CICR, et c'est peut-être une des raisons qui explique le fait que, en 1919, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge va surgir parce qu'elle ressent, les Croix-Rouges américaines, anglaises, etc., ressentent le besoin de revenir sur du médical, alors que le CICR était spécialisé dans les prisonniers de guerre notamment. Je vous remercie.
Alors, à la mort du docteur Frédéric Ferrière en 1924, les hommages exprimés évoque avant tout le vice-président du Comité international de la Croix-Rouge, le fondateur de la section des civils de l'Agence internationale des prisonniers de guerre, apôtre de la Croix-Rouge, pionnier de la charité selon les uns, Saint Vincent de Paul protestant selon les autres, Ferrière selon son frère le pasteur Louis Ferrière, a servi quelque chose de plus haut qu'une cause, même que celle de la Croix-Rouge. Il servait l'humanité. Sa famille reçoit de multiples témoignages de Suisse et de l'étranger prouvant son influence et son action dans les réseaux internationaux de la Croix-Rouge, mais aussi ceux de l'hygiène et d'autres causes philanthropiques comme celle de l'Union internationale de secours aux enfants notamment. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'homme d'action, l'homme d'influence, le médecin expérimenté, le député du groupe national au Grand Conseil Genevois, le père de famille que je vais évoquer, mais bien le jeune homme inexpérimenté au seuil de sa vie d'adulte et de sa carrière humanitaire que vous voyez ici en haut à gauche, bien frêle parmi les officiers de son ambulance badoise, et que la guerre franco-allemande de 1870-71 va profondément transformer. Lorsque Frédéric Ferrière part le 10 août 1870 de Genève sur le théâtre de la guerre afin d'apporter son aide aux blessés, il est en effet un jeune homme inexpérimenté qui n'a suivi jusqu'alors qu'en cours de visite d'hôpitaux et désire entreprendre des études de médecine. Il se présentera d'ailleurs comme, je le cite, aussi peu pratique qu'inexpérimenté. 32 ans plus tard, en 1902, il cède à l'injonction des siens et consacre ses loisirs dus à sa démission du Grand Conseil pour rédiger les mémoires de son aventure alsacienne, pour relater, comme il le dit dans son introduction, en petits morceaux d'existence quelconque au milieu d'une période mouvementée. Il livre un récit de 281 pages, dont voici un exemple, accompagné de nombreuses notes, les notes sont toujours sur la page de gauche, de dessins et de photographies, dont voici quelques exemples, également de nombreuses cartes postales, en se basant sur ses souvenirs et la volumineuse correspondance qu'il avait échangée jeune homme avec les siens. 2 ans plus tard, en 1904, il retourne sur les lieux avec ses fils, Adolphe, le célèbre pédagogue, Charles, qui deviendra entomologue, et Frédéric, dit Freddy, médecin sur la trace de son père. Et Frédéric Ferrière rédige un récit supplémentaire d'une dizaine de pages de ce voyage de mémoire. Ce témoignage nous permet, au-delà de ces nombreuses anecdotes, de mieux comprendre l'action des volontaires durant la guerre franco-allemande et les premiers pas de la Croix-Rouge à l'épreuve du feu. Nous pouvons aussi examiner le quotidien d'Enfeld Lazareth, badois, vu par un jeune secoureur volontaire, ainsi que l'expérience vécue d'un futur médecin au contact de la violence de la guerre, des blessés et de la mort. Je vous propose donc de retracer brièvement le déroulement de son périple pour mieux en comprendre les enjeux, puis d'examiner les deux points que je viens d'évoquer, donc les premiers pas de la Croix-Rouge et le quotidien d'une ambulance badoise, et enfin de considérer l'apport plus personnel de cette expérience pour la future carrière de Ferrière. Mais auparavant, précisons que ce riche document ne constitue pas la seule source pour retracer la figure de Ferrière durant la guerre franco-allemande. Les archives de la Croix-Rouge, où est conservé ce document, conservent également sa correspondance, ainsi que les débuts d'un journal de la guerre écrit en 1871 sur la sollicitation de sa famille, resté inachevé. Ces documents nourrissent évidemment le récit rédigé en 1902. Alors, les précautions d'usage à propos des témoignages utilisés en histoire sont d'autant plus de mise ici que nous sommes face à plusieurs niveaux de reconstitution de la part de l'auteur. Alors qu'il utilise comme matériau de base ses lettres, bien qu'élaborées sur le coup, ces lettres sont déjà une reconstitution pour ses parents, pour sa famille, de ce qu'il a vécu et ressenti. Il complète, au moment de la rédaction de ses mémoires, ses souvenirs, il complète ses souvenirs et la vision qu'il avait des événements avec le récit du déroulement des opérations, les batailles, les sièges, etc., en fonction de ce qu'il a pu apprendre et des ouvrages publiés entre-temps. La correspondance échangée avec sa famille témoigne d'un lien filial très fort. Fils et petit-fils de pasteur, Frédéric Ferrière grandit dans une famille protestante genevoise d'origine française. À l'annonce de la guerre, la famille Ferrière aurait pu se diviser entre un père d'ascendance française et une mère d'origine allemande. Mais la famille prend fait et cause pour les Allemands. Malgré son patriotisme suisse, sa conscience de la neutralité suisse, Ferrière sera d'ailleurs durant toute la guerre un partisan allemand. Je cite, « L'opinion du milieu dans lequel je vivais à la maison ayant été au début de la guerre très indignée contre la conduite des autorités civiles et militaires françaises, et cela avec raison, je ne me sentais portée d'aucune sympathie pour l'armée française. » Bien qu'il se justifie de cette attitude lors de la rédaction de ses mémoires, en particulier en expliquant qu'il exagérait sa sympathie dans sa correspondance qui était ouverte par la poste militaire badoise, elle transparaît toujours dans son récit du début du XXe siècle. Alors, à l'annonce de la guerre, Frédéric Ferrière, âgé de 21 ans, demande au cousin de son père, le docteur Louis Appien, avec qui la famille a d'excellents rapports et qui s'apprête à partir offrir ses services aux ambulances allemandes, de le prendre avec lui. Les soins aux blessés pourraient lui fournir une première expérience concrète en vue de ses futures études de médecine. Appia refuse, arguant l'inexpérience du jeune homme. Ferrière séjourne alors dans les Alpes vaudoises et oublie la guerre. C'est là qu'il reçoit un télégramme de son père, le prévenant qu'Appia recherche maintenant des volontaires. Bien qu'il n'ait plus l'âme à partir, il décide, par souci de cohérence avec lui-même, de le faire quand même. Il quitte Genève le 10 août au matin, en train, pour se rendre à Karlsruhe, via Romanshorn et Stuttgart. La route directe est enfermée en raison de transport de troupes. Il part en compagnie du pasteur Jacques Hennie, qui a été une dizaine d'années pasteur de l'église luthérienne de Genève et qui a l'intention de remettre une somme d'argent récoltée auprès des Allemands de Genève au comité de la Croix-Rouge du Grand-Duché de Bade. Un autre jeune homme, partant par goût de l'aventure, les accompagne aussi. Le récit du voyage de ce trio est bien loin de l'image hagiographique du jeune homme marchant vers sa destinée humanitaire véhiculée par les biographes officiels édités par la Croix-Rouge et par ses fils. Ferrière découragé, son jeune compagnon insouciant, le pasteur Hennie agacé et faisant semblant de ne pas les connaître. Il leur faussera d'ailleurs compagnie à Stuttgart, puis les deux jeunes gens le retrouveront plus tard. Les anecdotes et rebondissements ne manquent pas, mais tel n'est pas notre propos aujourd'hui. Leur premier objectif est d'obtenir un brassard de la Croix-Rouge. Première tentative vaine à Stuttgart, avant de parvenir à leur fin à Karlsruhe. Puis se rendre sur le théâtre de la guerre, dans l'espoir de se faire enrôler comme infirmier volontaire. Ils échouent finalement à Haguenau, qui se trouve à 28 km au nord de Strasbourg, en territoire conquis, mais reste bredouille quant à leur objectif. Sur le point de repartir pour Genève, Ferrière rencontre inopinément le docteur Appia, puis peu de temps après vit sa première expérience de secoureur volontaire. Tous deux portent spontanément secours aux blessés dans l'accident de train. Puis le lendemain, Ferrière intègre en tant que volontaire, grâce à l'entremise d'Appia, l'ambulance militaire badoise où les blessés ont été transportés, bien qu'au début, il n'y a rien à faire pour lui. Je cite, « Je n'étais pas ravie de mon sort, être venue de si loin, écrivais-je à mes parents. Pour passer quelques heures à ne rien faire dans un hôpital et me reposer le reste du jour, ce n'était pas mon affaire. Je voulais être utile et soigner des malades. Oh, illusion de l'ignorance, à quoi aurais-je pu être utile puisque je ne savais rien ?» Il restera finalement durant toute la guerre au sein de ce fait de la Lazarette où il apprend les bases des soins à donner aux blessés et malades et assiste à toutes les opérations menées par les médecins. L'ambulance stationne environ 2 mois à Haguenau, puis se déplace en fonction de l'avancement des opérations militaires avant de se fixer à Grès en Haute-Saône. Au fil des semaines et des mois, les responsabilités de Frédéric Ferrière augmentent. Il reçoit à un certain moment la charge d'un service de chirurgie en ce qui concerne les pansements, doit à 2 reprises diriger les transports de blessés à travers les Vosges, la première fois 49 blessés escortés par une 70aine de soldats jusqu'à Vesoul, environ 60 km, la seconde fois une 70aine de blessés et malades sans escorte militaire jusqu'à Épinal, environ 150 km. Chaque fois, il doit se soucier de leur ravitaillement et de leur logement, les démarches avec les autorités locales étant parfois conflictuelles. Vers la fin de la guerre, Ferrière doit prendre temporairement la responsabilité d'un service comportant une 50aine de malades, le médecin en chef étant indisposé. L'événement le plus marquant de son périple fut sans aucun doute sa propre maladie et ses conséquences. La légende qui en découla dans l'historiographie de Ferrière ainsi que l'interprétation que nous pouvons donner de cet épisode quant à notre propos mérite que nous nous y arrêtons un instant. Ferrière tombe malade. On croit que c'est le typhus, alors que les troupes françaises s'approchent de la ville. Il est transféré à l'hôtel Dieu de Grès peu avant l'évacuation de son ambulance. Sa maladie s'avère finalement être la petite vérole. Lorsque les troupes françaises entrent dans Grès le 31 décembre, Ferrière, toujours alité, est porté sur la liste des internés. Il interprète cette mesure comme la preuve que les Français le soupçonnent d'être un espion. En fait, dès son départ et durant tout son séjour sur le théâtre de la guerre, il craint d'être pris pour un espion, autant de la part des Allemands que des Français. Là, sa frayeur augmente et il a peur aussi bien de la population surexcitée que des troupes de francs-tireurs et même surtout des troupes régulières qui pourraient l'exécuter sommairement sans aucune forme de procès. En effet, les plus folles rumeurs attisent à ce moment-là les peurs. Finalement, un médecin français de l'hôpital intervient en sa faveur et lui obtient un ordre d'évacuation immédiate par Besançon et le Locle. Ferrière, tout comme ses parents, sont indignés qu'un volontaire suisse soit expulsé de la sorte du territoire français. Il comprendra plus tard que cette expulsion était en réalité une mesure de protection. Ferrière retourne à Genève et 3 semaines plus tard, à peine remis, il rejoint son ambulance qui a regagné entre-temps la ville de Grès. Et un mois plus tard, l'ambulance est démobilisée. Ferrière décide de l'accompagner jusqu'à Karlsruhe pour assister à l'entrée des troupes dans la ville avant de rentrer à Genève. Mais lors d'un banquet sur la route de Karlsruhe, il reçoit un télégramme lui signifiant que son père est malade. Il rentre à Genève, mais c'est trop tard. Son père est déjà décédé. Il veille ensuite sa mère, qui a attrapé la petite vérole à son contact. Elle survit miraculeusement. Pour Frédéric Ferrière, la fin de son aventure alsacienne a un goût amer. Après Pâques, il quitte Genève pour commencer ses études de médecine à Berne. L'historiographie sur Ferrière a surestimé et surestime encore les faits de son internement. Ferrière a souvent été présenté comme ayant échappé de justesse à un peloton d'exécution. Même si le risque a existé, les autres internés de l'hôtel Dieu de Grès ont été évacués dans les Pyrénées et parmi eux, nul n'a été fusillé. Cet épisode nous démontre en outre que la neutralité des volontaires pose problème lors de la guerre franco-allemande. Pour le médecin qui lui signifie son internement, je cite, « Vous êtes venu avec les Prussiens, vous serez considéré comme Prussien. Mais comment cela répartis-je? Je suis régulièrement attaché à la Croix-Rouge, je suis suisse, donc neutre. Ma situation est absolument régulière. » Ferrière aussi entre la crainte des conséquences de cette situation et l'assurance de son statut. Je cite, « Pour la première fois, ma situation devenait positivement grave, car interné, tout pouvait m'arriver de la part d'autorités militaires plus ou moins arbitraires. Pourtant, je me sentais fort de ma situation parfaitement régulière de secoureur volontaire travaillant sous le drapeau de la Croix-Rouge et au bénéfice de la Convention de Genève. Mais comme son expérience le lui démontre, son statut est plus que précaire. Et la Convention de Genève est encore peu connue, autant de la population évidemment que des autorités. Son premier convoi de blessés, par exemple, est assailli par les troupes de francs-tireurs, alors qu'un autre convoi similaire a été délibérément attaqué par des troupes françaises. La méconnaissance ou le mépris des nouveaux principes humanitaires est accompagné d'un vide organisationnel de la part des sociétés nationales de la Croix-Rouge. On l'a vu, Ferrière veut non seulement obtenir de lui-même un brassard, mais il comprend aussi de la manière forte, je passe les détails, qu'un brassard ne procure aucun droit à un logement, par exemple, pour autant que le volontaire n'ait pas trouvé une affectation. Sur ce point également, nous pouvons constater que l'œuvre humanitaire est dans ses balbutiements. Ce sont en effet les volontaires qui doivent se trouver une occupation. D'où de nombreux problèmes de recrutement, autant en nombre qu'en compétences et en efficacité. Je cite, le docteur Appia avait entendu de même à Karlsruhe se plaindre des nombreuses demandes de brassards de la part de gens peu qualifiés. 4 jeunes gens de Genève que nous allions voir arriver s'étaient montrés assez impolis au comité et l'on nous priait d'arrêter le zèle de nos compatriotes. En partant de Genève, Ferrière avait répondu à l'appel pressant de recherche de volontaires d'Appia. Rappelez-vous le télégramme. Puis une fois sur place, nul n'a besoin de ses services car il y a trop de volontaires. Il fait ses premiers pas de secoureur en raison d'une situation d'urgence, rappelez-vous l'accident de train, et est incorporé, bénéficiant de l'entremise d'Appia, dans une ambulance alors qu'il n'a pas assez de travail et que lui-même n'a pas de compétences à offrir si ce n'est sa bonne volonté et son envie d'apprendre. Je cite, J'allais le matin à l'hôpital où on ne faisait guère attention à moi, offrant mes services aux infirmiers qui n'en profitaient guère, le moindre d'entre eux faisant beaucoup mieux les pansements que moi.
Le médecin de salle me tolérait et fermait les yeux.
Le récit de Ferrière nous montre donc l'absence de gestion des volontaires au sein du mouvement de la Croix-Rouge et plus précisément de la part des sociétés nationales devant organiser les secours sur place et pouvant être submergées par les bonnes volontés. Celles-ci doivent de toute façon se démener seules pour trouver une affectation. De même, plusieurs exemples témoignent de difficultés de l'acheminement de matériel sanitaire. Les aides récoltées, que ce soit de nature financière ou matérielle, sont acheminées le plus souvent par leur initiateur ou initiatrice, si bien que leur octroi dépend de l'efficacité de ceux-ci. Le récit de Ferrière nous permet également d'examiner le fonctionnement du réseau sanitaire allemand, l'ambulance badoise à laquelle il est rattaché, étant une ambulance dite volante, recueillant les blessés qui ont pu être transportés et réquisitionnant les locaux des hôpitaux et autres maisons pouvant les héberger. Son personnel, constitué de médecins militaires et d'infirmiers, n'intervient pas directement sur les champs de bataille et n'effectue pas le premier transport de blessés. L'ambulance ne conserve que les cas urgents, non transportables, puis expédie au fur et à mesure des possibilités le plus grand possible de ces convalescents, blessés, transportables, malades en voie d'amélioration, vers l'arrière. Le réseau sanitaire allemand permet ainsi, étape après étape, de rapatrier les blessés et malades convalescents jusqu'en Allemagne. La description du quotidien de l'ambulance, en particulier du service de chirurgie où il est affecté, nous offre de nombreuses précisions sur les soins donnés aux blessés et malades durant la guerre franco-allemande. Ferrière doit en effet panser les blessés deux fois par jour et assiste aux opérations et autopsies effectuées par les médecins. Ferrière est aussi sensible aux enjeux liés aux épidémies classiques en temps de guerre, telles que le typhus, la petite vérole, et procède aussi à des descriptions comparatives entre les pratiques sanitaires allemandes et françaises, notamment par rapport aux opérations et amputations. La richesse de ce témoignage réside assurément dans le fait que le regard dans ce récit est en quelque sorte mis en abîme, puisque nous avons autant celui du jeune infirmier volontaire que celui du médecin expérimenté, qui prend la plume au début du XXe siècle et commande alors la médecine de guerre telle qu'elle fut pratiquée trois décennies plus tôt et qui a entre-temps évolué. Au niveau personnel, le jeune Ferrière a eu un contact plutôt rude avec l'urgence sanitaire. Alors qu'il arrive avec le docteur Appiah sur le lieu de l'accident du train de Haguenau, je cite, « Le tableau en est saisissant. Nous nous précipitons vers le talus dans un terrain inculte, couvert de buissons où les premiers arrivants entraînaient les blessés. Mes deux ailes, je m'apprête à ouvrir la tunique d'un soldat qui râle, le crâne enfoncé. Laisse donc cela, me dit le docteur Appiah. On s'occupe ici des vivants et non pas des morts. Mon impression fut très vive à cette observation. Jugez combien j'étais novice quant à ce genre de spectacle. Je n'ai jamais pu oublier ce tableau lugubre. Une ou deux heures plus tard, repassant là, je vis ce pauvre troupier mort, mais il me parut cruel de ne pas avoir pu m'occuper de lui alors qu'il vivait encore. Et comme l'avait dit le docteur Appiah, le sentiment n'était pas à ce moment de saison. » Au fil des semaines, Ferrière s'affermit et apprend rapidement à penser et aider les malades. Même si au début, le quotidien de l'ambulance ne l'exalte pas vraiment, comme nous l'avons déjà vu, il comprend que là, il peut acquérir une pratique utile pour la carrière à laquelle il se destine. L'aspect utilitariste apparaît déjà dans ses motivations de départ. Se considérant comme timide, fragile de santé et peu à l'aise en société, il espère que se lancer dans l'aventure le fortifiera. Son séjour dans le lazaret militaire lui donne la possibilité d'effectuer un stage pratique d'infirmier. Cela le motive au début de son périple, mais aussi dans ses moments de découragement. Lorsqu'il est à Genève, convalescent, c'est également cela, en plus du sentiment de devoir, qui le motive pour rejoindre son ambulance. Je cite, « Le 9 février, bien que pas absolument remis et souffrant encore d'insomnie et surtout de névralgie, j'étais parti de Genève pour aller rejoindre mon ambulance. Je m'y étais attaché et il me semblait de mon devoir d'aller reprendre mon poste. Du reste, qu'aurais-je fait sans cela? Le semestre universitaire ne devait recommencer qu'après Pâques et jusque-là, je pouvais encore non seulement me rendre utile, mais apprendre beaucoup de choses à l'ambulance. Il avoue d'ailleurs que la transition, lorsqu'il commença ses études de médecine, fut quelque peu difficile quand, après avoir fait de la chirurgie pratique, après avoir été couramment appelé monsieur le docteur, il se retrouve sur les bancs pour faire de la chimie, de la physiologie et de l'anatomie. Ses premiers contacts avec les blessés, nous l'avons vu, le marquent profondément. De même, la violence de la guerre, que ce soit pour le biais des plaies qu'il doit traiter, des opérations auxquelles il assiste, des scènes traumatisantes qu'il vit ou du spectacle d'un champ de bataille abandonné. Son expérience est ainsi en partie traumatisante, telle par exemple une amputation à laquelle il assiste. Je cite « Un pauvre diable fumé en plein air sur une table et sans chloroforme, on lui amputa la cuisse. Je n'oublierai jamais non plus son râle de douleur. Depuis lors, jamais je n'ai vu faire une opération se rapprochant tant soit peu comme douleur de celle-ci, sans que le malade fût anesthésié. » Mais ces observations nourrissent sa future pratique de médecin, tandis que le contact avec les horreurs de la guerre rompt ses certitudes et engendre un sentiment de désillusion. Aussi, l'humanité civilisée nous apparaît sous un jour jusque-là jamais entrevu, celui de la brute humaine, de la hyène humaine. La charité chrétienne, l'amour chrétien, nous apparaissent comme des figures pâles et illusoires dans le lointain, comme en pieux mensonge ou en beau rêve très éloigné de la réalité. Nous avons l'écœurement de l'humanité. La vie nous a trompés, le monde nous a trompés. La réalité est là, sous nos yeux, dans ce charnier puant qui nous environne et qui fut, il y a quelques jours seulement, la jeunesse, l'espoir de la nation et de la famille. Je ne puis décrire mon impression. Je crois que personne ne peut l'éprouver qui n'a parcouru un vaste champ de bataille plein de l'horreur du combat. Cette dimension initiatique est renforcée par sa propre expérience de la maladie, par son angoisse lorsque sa mère a été contaminée par la petite vérole et par le deuil qu'il vit avec la perte de son père. En conclusion, le récit de Ferrière démontre la difficulté de la Croix-Rouge, moins de 10 ans après sa fondation, à faire respecter le texte de la Convention de 1864, mais aussi avant tout à le faire connaître. De même, l'organisation des secours civils est encore largement désorganisée. Par ailleurs, le témoignage de Ferrière vous permet d'examiner la pratique de la médecine de guerre dans les services sanitaires allemands et français, ainsi que de saisir les enjeux des progrès médicaux de la fin du XIXe siècle. Du reste, Ferrière continuera par la suite à se soucier de la médecine de guerre sur laquelle il publiera plusieurs textes. Enfin, nous pouvons affirmer que la dimension initiatique de l'expérience de jeunes secoureurs volontaires sous le drapeau de la Croix-Rouge est très forte pour Ferrière. À de nombreuses reprises, l'homme qui écrit au début du XXe siècle prend la mesure du chemin parcouru. Même si l'analyse de ses souvenirs écorne la figure hagiographique de Ferrière, notamment sur les motivations de sa démarche, il n'en demeure pas moins que ce récit, en particulier la double perspective de sa narration, qui permet d'examiner ce qui peut concourir à la naissance d'une vocation humanitaire. Goût pour la médecine, goût de l'aventure, sensibilité familiale pour le secours d'autrui. Lorsque Ferrière analyse l'influence morale de ses parents sur sa décision de partir, et surtout celle de son père, pasteur, qui a consenti au départ de son fils dans l'espoir qu'il porte, je cite, « sur le champ de bataille, au moins autant les secours religieux que les soins physiques. » Ferrière se justifie vis-à-vis de ses enfants, puisqu'entre-temps, il a pris ses distances avec la pratique religieuse telle qu'il l'a vécue avec ses parents. Il tente alors de trouver l'essence de ses différentes visions du monde. Je cite, « la recherche sincère du bien n'en reste pas moins l'idéal de tout individu normal. » À chaque époque, à chaque milieu, appartient l'orientation vers laquelle tend cet idéal et les expressions pour le manifester. Je vous remercie.